Avoir raison avec Ayn Rand par Xavier Delaporte, aujourd'hui l'héritage littéraire. Quatrième volet, où nous allons parler donc des romans d'Ayn Rand. Car si cette penseuse et théoricienne née en Russie en 1905 et morte aux États-Unis en 1982 a publié quelques textes théoriques, notamment dans des revues, elle doit sa notoriété et son influence à ses romans, et deux d'entre eux en particulier, La Source Vive, Fountainhead, publié en 1943, et Atlas Shrugged, traduit sous le titre de La Grève, publié en 1957. Alors deux romans qui n'ont pas été très bien accueillis par la critique sur le moment, mais qui ont profité tous les deux d'un bouche à oreille assez fort et lui ont valu une gloire littéraire, pas immédiate mais presque. Une gloire donc littéraire qu'elle a connue de son vivant, qui a fait d'elle une penseuse influente du mouvement libertarien aux États-Unis, mais aussi une postérité qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, puisque les romans de Ayn Rand continue d'être très lu aux États-Unis par les jeunes, par les politiques, en particulier conservateurs, mais pas seulement, par aussi les leaders de la Silicon Valley. Et si ces textes sont encore lus, c'est pour ce qu'ils décrivent, des personnages forts, égoïstes, ambitieux, qui s'imposent contre le conservatisme de la société, mais aussi parce que Rand manifeste une puissance romanesque qui peut toucher un public que ses idées, elles seules, rebuteraient. Ayn Rand, romancière, nous allons en parler avec vous, Antoine Bello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et vous confessez volontiers votre intérêt pour l'écrivaine Ayn Rand. Je précise juste que vous êtes français et américain.
Je suis français, je suis né aux États-Unis, ce qui me donne le passeport américain, mais je suis de culture entièrement française. Il se trouve que maintenant j'habite depuis 15 ans aux États-Unis, ce qui me rend un petit peu plus américain.
Et vous êtes l'auteur, alors en particulier, bon, d'une dizaine de romans, dont une trilogie, Les Falsificateurs, Les Éclaireurs, Les Producteurs, et vous venez de publier L'Homme qui s'envola, chez Gallimard toujours. Nous sommes d'ailleurs dans la bibliothèque de Gallimard. Alors première question rituelle que je pose, parce qu'on connaît peu Ayn Rand, comment vous êtes tombé sur elle, Antoine Bello?
À l'occasion d'un article du Wall Street Journal en 2007, dans leur numéro du samedi, ils faisaient un dossier sur le cinquantenaire de la parution de Atlas Shrugged, donc paru en 1957, et ils parlaient de ce livre avec énormément d'éloges, ce qui n'est pas très étonnant d'ailleurs quand on connaît le positionnement du Wall Street Journal, ce que j'ai découvert plus tard, mais avec beaucoup d'éloges, et surtout ils le présentaient comme un livre parmi les plus influents du XXe siècle, un texte majeur, très apprécié, lu par tous les parlementaires et les chefs d'entreprise. Et je me suis dit, mais comment ai-je pu vivre aussi longtemps, moi qui prétends connaître et en tout cas m'intéresser à la littérature américaine, sans jamais entendre parler de ce livre? Et donc je suis allé l'acheter au coin de la rue, il y avait une librairie à l'époque au coin de ma rue, je suis allé l'acheter et je l'ai dévoré. C'est un très très gros livre, hein. Il doit faire, je sais pas, 1000 ou 1500 pages. Et je l'ai dévoré et j'ai été happé d'abord et avant tout par la puissance du roman. C'est-à-dire que les idées viennent presque dans un deuxième temps. On comprend assez vite qu'il y a un système philosophique, en fait, derrière tout ça, que Ayn Rand ne laisse rien au hasard, que ces personnages sont en fait les porte-parole d'une philosophie, que même les personnages négatifs, entre guillemets, sont là pour alimenter sa pensée et servir d'exemple, de contre-exemple ou de repoussoir. Mais néanmoins, c'est moi d'abord la puissance romanesque qui m'a séduit, la richesse des personnages, la singularité de ces personnages. Parler d'univers dont on ne parle jamais, enfin, ou rarement en tout cas, jamais pour moi le monde de l'entreprise n'a été aussi bien décrit que par une femme qui n'a jamais travaillé en entreprise. C'est quand même assez fascinant quand on y pense. Enfin, elle s'est beaucoup documentée. Elle a même fait un stage en cabinet d'architecture pour écrire The Fountainhead. Donc une compréhension intime des mécanismes de l'entreprise, d'un cabinet d'architecture, mais aussi du monde académique dont elle parle, du monde de la création artistique, puisque dans Atlas Shrugged, il y a des personnages qui sont compositeurs, il y a des personnages, il y a des philosophes, il y a des écrivains, et puis un sens des situations, surtout, m'impressionne énormément, c'est-à-dire qu'elle a l'art de tisser sur plusieurs chapitres un écheveau sur le moment, on comprend pas très très bien où ça va et on se retrouve tout abouti dans une scène ou dans un moment où tous les enjeux sont apparents et on a l'impression que les personnages jouent leur vie, ou on a l'impression d'un point de vue romanesque que c'est là que se dénoue le nœud du roman. Il y a plusieurs scènes comme ça auxquelles je pense dans Atlas Shrugged, par exemple la scène où Dagny et Hank Reardon sont à bord de la locomotive Taggart qui va traverser le pont. Donc il faut expliquer, Hank Reardon est un entrepreneur, il a inventé un alliage qui a l'air en tout point révolutionnaire, plus solide, moins cher, plus résistant que les autres. Mais évidemment, l'industrie métallurgique lui fait toutes les difficultés du monde, y compris beaucoup de lobbying à Washington, pour empêcher le métal Reardon d'être vendu et de les supplanter. Et Hank Reardon dit, mais pour vous prouver la solidité de mon alliage, on va poser des rails sur un pont et vous verrez bien, s'il n'est pas capable de soutenir la locomotive, on tombera à l'eau. Donc évidemment, le train est vide, à part Hank Reardon et le conducteur de la locomotive, et Dagny Taggart, qui est donc amoureuse de Hank et qui, dont c'est elle-même une des locomotives, ne peut pas imaginer de ne pas être dans cette locomotive. Et c'est absolument magnifique, cette scène est décrite avec un lyrisme incroyable, et c'est pourtant le lyrisme de l'industrie. On a l'impression d'entendre le sifflement du train, et c'est la beauté du métal, et c'est la puissance de conquête de l'homme qui arrive à asservir la nature et à enjamber les cours d'eau, et tout ça à une grande vitesse et à ses conditions. Enfin, c'est absolument superbe. Je pense à une autre scène, peut-être encore plus belle d'un point de vue romanesque, d'une scène justement encore avec ce fameux Hank Reardon pour qui sa femme donne une soirée d'anniversaire pensant lui faire plaisir. Elle lui fait en fait pas du tout plaisir parce qu'il déteste la moitié des gens qui sont là ce soir-là et il préférerait aller se coucher avec un bon livre. Et voilà, sa femme s'est faite très belle, sauf au poignet, elle a mis ce qu'elle appelle un hideux bracelet fait dans le métal, le fameux alliage qu'a développé Hank, croyant faire plaisir à sa femme. Il a, avec le premier batch de métal, il a fait faire un petit bracelet, mais qui a évidemment, qui a un côté très très brut. C'est pas une jolie pièce. C'est la valeur de symbole évidemment qui pourrait lui donner de la valeur. Mais Lillian Reardon, donc sa femme, ne peut pas s'empêcher de le montrer à tous les convives en disant: regardez ce que mon mari m'offre. Pensez-vous qu'il m'offrirait des perles ou un beau voyage ou un vison? Mais non, c'est cette odieuse pièce de métal. Et cette scène, voilà, où Dagny Taggart, qui est donc amoureuse de Hank, va voir Lillian Reardon et lui dit « Écoutez, moi j'ai un très joli bracelet. » Et de fait, elle a le bracelet de perles dont rêve Lillian Reardon. Et lui dit « Si vous voulez, on échange. » Mais pourquoi? Les termes ne sont pas du tout... Hein. Au contraire, je considère que j'y gagne. Et elle lui tend le bracelet et prend le... Et ça, c'est magnifique. D'un point de vue romanesque, c'est tellement beau. Ça dit tellement sur les valeurs de l'une et de l'autre. Lillian Reardon, elle veut des perles. L'autre, elle veut un bout de l'esprit humain de Hank Reardon. Et puis, c'est une façon d'affirmer ses droits, de dire à cette femme... je vais te prendre ton homme parce que t'en es pas digne. C'est exactement ce qu'essaye de dire Dagny à ce moment-là. Le tout devant tous les convives et Lillian Reardon qui n'ose pas faire de scandale. Enfin, c'est le genre de scène qu'on rêve qu'on rêve d'écrire, qu'on rêve d'imaginer dans un roman. Et parfois, ça arrive et on le sait quand on a trouvé ce moment un peu de vérité, le geste ou les quelques mots qui font que ça y est, tout devient clair. La situation est limpide.
En 2007, vous étiez déjà écrivain? D'où la question qu'on se pose, en quoi une lecture comme celle-ci a changé peut-être de façon d'écrire, ou en tout cas l'a interrogé. Et j'ai été frappé par le fait que devant votre dernier roman, qui vient de sortir en mai dernier, il y a une référence explicite à Ayn Rand, puisque quand un détective fait le portrait du personnage principal de votre livre, l'homme qui s'envola, je cite la description que le détective fait de Walker, qui est prénommé d'ailleurs qu'avec son nom de famille comme les personnages de Rand, c'est peut-être un hommage. Il dit hétérosexuel, athée de sensibilité républicaine sur les sujets économiques, favorable à la baisse du taux de l'impôt sur les entreprises et à la réduction du poids du gouvernement, très randien, et démocrate sur les questions de société, partisan du droit à l'avortement et de la légalisation, pardon, du mariage homosexuel, aussi assez randien, marqué donc par la lecture de l'adolescence, à l'adolescence de la grève, et imprégné de la philosophie objectiviste d'Ayn Rand, être fondamentalement rationnel, montrant peu d'émotions, y compris dans le cercle privé, etc., etc. C'était donc un personnage randien. Alors, en quoi c'est un hommage directement à Rand, et en quoi ça devient un outil pour vous, je ne sais pas, une variation sur le personnage randien, peut-être, ce roman?
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un hommage, mais disons que à partir de ce moment où, du moment où ce personnage est sorti de mon imagination, et comme tous les personnages, il a un côté autobiographique où il peut s'inspirer d'autres livres ou d'autres personnages qu'on a vus dans des œuvres de fiction. Mais disons ce personnage ultra rationnel qui ne veut avoir de compte à rendre à personne, qui fondamentalement professe l'égoïsme dans un sens rendien, c'est-à-dire je ne vous demande pas de vous occuper de moi, alors ne me demandez pas de m'occuper de vous. C'est en gros ce que pense John Walker. À partir du moment donc où le personnage est comme ça et que l'action se déroule aux États-Unis, il est évident que pour moi qu'un détective privé qui est chargé de faire un portrait sur lui va devoir citer Rand. C'est là qu'on voit, enfin, je dirais, elle est culturellement tellement importante aux États-Unis que c'est la meilleure façon de décrire John Walker. Bon, enfin, il y a d'autres, le portrait psychologique ne s'arrête pas à ça, mais disons que quand on explique ça, pour 80% des lecteurs américains, ça suffit. On situe le personnage. Mais c'est comme si en France, on parlait d'une Emma Bovary ou d'un Julien Sorel ou d'une Cosette. Ou, enfin, voilà, ce sont des personnages qui sont vraiment arrivés au rang d'archétypes. Rand, John Galt, Howard Roark dans The Fountainhead. Elle a réussi à créer un certain nombre de personnages comme ça qui sont connus en dehors des romans.
Est-ce que vous partagez avec Ayn Rand des passions littéraires? On sait que ça a été une très grande lectrice de Victor Hugo. Toute sa vie, elle a considéré que c'était le parangon de l'art littéraire. Je crois qu'elle a lu en français dans le texte à 12 ans ou 12 à 16 ans. Est-ce que vous partagez ce même panthéon des grands auteurs, notamment du 19e, avec ce que ça veut dire en termes de narration, de formation des personnages, d'intrigue, mais aussi un souci de la langue et la littérature qui n'est pas celui du nouveau roman, etc., quoi, qui est une autre littérature?
Oui, en partie. Alors, je suis pas, enfin, je tiens évidemment Victor Hugo comme un auteur indépassable. Dire que ça a été un de mes maîtres ou que c'est une personne à qui je pense tous les jours, ça serait exagéré. Je lui voue pas la même admiration. Enfin, je ne me sens pas en empathie avec lui comme probablement Ayn Rand pouvait se sentir. Elle aimait aussi énormément Dostoïevski, qui est son premier pays, hein, puisque cette femme a émigré aux États-Unis à l'âge de 20 ans, mais elle a été élevée en russe. Et ce qu'il faut jamais oublier, donc, quand elle écrit Atlas Shrugged et The Fountainhead, elle ne les écrit pas dans sa langue, ce qui est quand même toujours, quand certaines personnes critiquent un peu son style. Il faut quand même prendre ça en compte. Ce n'est pas sa première langue. Et elle l'a même pas apprise en tant qu'enfant ou adolescente. Voilà. Maintenant, ce que je partage, je pense, avec elle, pour moi, quand je pense à Victor Hugo, je pense aussi souvent à Dumas, des gens qui n'ont pas peur de faire des œuvres très, très amples, amples par les thèmes, ample par le temps, ça peut se passer sur des années, voire des générations, dans lesquelles l'espace également joue un très très grand rôle. C'est des livres où on bouge, où on arpente un territoire. Et donc, elle a ça, et elle, très clairement, a repris ça, et ça, moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai essayé de le faire, par exemple, dans L'homme qui s'envola, qui est donc une sorte de course-poursuite entre un détective et un homme qui a choisi de disparaître. Ça se passe sur le territoire des États-Unis, et vraiment, on sillonne tout le pays. Elle a également, je pense, un don. Elle n'a pas peur d'avoir énormément de personnages. Vous avez des fiches Wikipédia qui sont liste des personnages importants de Atlas Shrugged, de La Grève. Vous avez, enfin, il y a des dizaines et des dizaines de personnages. Et puis, vous croyez que vous avez fini. Et puis là, après, c'est liste des personnages secondaires. Et vous en avez encore. Mais je sais pas, c'est absolument fou. Elle a nommé un nombre de personnages. C'est tellement dur, en plus, de nommer un personnage, de lui créer quand même un minimum et tout. Mais elle crée ça avec une facilité. Et c'est ça qui est magnifique. Moi, c'est ça qui me séduit absolument. C'est chacun de ces personnages, en fait, peut-être pas les secondaires, peut-être pas les 100 secondaires, mais les 20 ou 30 principaux, ils sont, c'est pas une caricature. C'est pas trois traits pour les camper à la diable. C'est véritablement, je pense à un personnage, par exemple, Wesley March, qui est un lobbyiste, qui est à Washington et dont le seul job, c'est de s'opposer à de nouvelles, enfin, de demander de nouvelles régulations pour empêcher l'innovation et pour empêcher, par exemple, le métal de Hank Reardon. Ce personnage, il est magnifique. Il apparaît dans plusieurs scènes. Et on voit à la façon, à ses gestes, à la façon dont il parle, dont il s'entoure, que Ayn Rand l'avait à l'esprit quand elle a écrit ce livre. C'était pas, tiens, j'ai besoin d'un lobbyiste, comment je vais l'appeler, et hop, en une minute, il vit. Elle a mis, je sais plus combien, 10 ou 15 ans à écrire Atlas Shrugged. Elle a dû porter ça et vivre avec ses personnages pendant très, très, très longtemps.
Alors, Antoine Bello, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces textes d'Ayn Rand, qui sont, vous l'avez expliqué, d'abord des grands romans, mais qui sont aussi des textes théoriques, hein. Atlas Shrugged finit par 150 pages d'un discours prononcé à la radio par le personnage Galt, et qui ce sont 150 pages qui sont purement de la théorie. Bon, et comment ces textes-là, même les parties théoriques, peuvent être lus, intéressés et fascinés des lecteurs que pourtant tout rebute dans ce que ces romans défendent comme thèse. Je ne sais pas si c'est votre cas politiquement, mais c'est le cas, par exemple, le mien, mais de beaucoup d'autres lecteurs de Rand. Comment ça fonctionne, ça ?
Bon, d'abord, en France, Rand a peu de lecteurs, donc visiblement, ça ne marche pas si bien que ça. Enfin, y a beaucoup de gens qui se sont laissés rebuter ou qui n'ont même pas ouvert le livre, qui surtout ne savent même pas qu'il existe, qui ne savent pas qu'Ayn Rand est quelqu'un d'important, qui ne savent pas qu'on en a fait une traduction. Quand le livre est sorti en France dans la très bonne traduction de Sophie Bastide-Foltz, le silence des médias a été assourdissant. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a dû avoir quelques lignes dans l'Obs pour annoncer sa sortie. C'est un texte important qui, à mon avis, méritait d'être chroniqué, quel que soit le bord politique. Aux États-Unis, et je dis ça parce que aux États-Unis, justement, enfin, la culture, l'éthos américain est tellement différent que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de Ayn Rand ne choquent pas du tout. Enfin, sont tenues pour acquis, font partie de la culture américaine, une forme d'égoïsme, une forme de, justement, de laisser faire. Si ces gens-là ne m'embêtent pas, de quel droit vais-je leur dire ce qu'ils doivent faire? Et donc il y a des gens, si vous voulez, que la lecture ne rebute pas. Après, je trouve, moi, la force absolue, c'est quand le roman est tellement puissant qu'il arrive à faire passer des choses qui ne passeraient pas sinon. Moi, j'offre beaucoup La Grève à des amis de droite, des amis de gauche, et je suis toujours intéressé d'avoir leur retour quand ils le lisent, quand ils vont jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je l'ai récemment offert à une amie de gauche qui m'a dit avoir été bouleversée par cette lecture. Ça l'avait véritablement chamboulée, c'est-à-dire que elle ne souscrivait pas du tout à la philosophie d'Ayn Rand, presque encore moins après avoir lu le livre qu'avant, mais ça avait changé sa façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'elle comprenait mieux comment cette pensée pouvait être un système, comment elle était cohérente et comment des gens, par exemple les entrepreneurs, elle me parlait de ça en me disant « toi, tu as été entrepreneur, donc je peux imaginer aussi pourquoi ça t'a parlé », elle dit « je comprends mieux ». Ça m'a rendu moins bête. C'est, enfin, ce qui est juste ce qu'on aimerait tous savoir faire quand on écrit des livres. En cela, c'est ce livre, je trouve, est vraiment très, très, très intéressant. Et pour les gens qui risqueraient de trouver la grève trop polémique et trop théorique, je recommande dans ces cas-là de commencer par La Source Vive, qui est plus romanesque, dans lequel la théorie a moins de part. Même si après, quand on connaît la pensée d'Ayn Rand ou quand on lit Atlas Shrugged, on se rend compte que tout était enfermant dans La Source Vive qu'elle a écrit 15 ans plus tôt et dont elle a dit elle-même plus tard qu'il avait servi un peu de brouillon à Atlas Shrugged. Enfin, c'est un brouillon de très bonne qualité, hein, je le recommande.
Et sur cette question que vous avez évoquée à deux reprises, qui est la question du travail, de l'entreprise. Oui. Effectivement, non seulement vous avez été vous-même, ou vous êtes peut-être encore entrepreneur, mais aussi vous êtes intéressé vous-même dans votre travail d'écrivain par la description de ce monde de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui est dur à raconter et qu'est-ce que raconte très bien Ayn Rand de ce monde-là?
Ce qui est véritablement magnifique, il y a deux niveaux. On va dire le premier niveau est impressionnant, mais peut être répliqué. C'est le niveau de « tiens, je connais très très bien une industrie ». Vous pouvez lire La Source Vive, 700 pages. Je connais des gens, des architectes qui l'ont lu et qui me disent « c'est... enfin, il n'y a rien à redire, ce livre pourrait avoir été écrit par un architecte ». Moi, ça me paraîtrait pas évident. Ça m'intimiderait un peu si je devais écrire l'histoire de quelqu'un qui va construire des bâtiments toute sa vie et pourquoi il s'oppose en plus aux méthodes traditionnelles et veut faire œuvre un peu révolutionnaire. Je serais un petit peu intimidé par ça. Elle a résolu ça en allant travailler dans un cabinet d'architecte pendant je sais plus combien, c'était 6 mois ou 1 an. Mais bon, elle l'a très bien fait et elle l'a fait vite. Pareil dans Atlas Shrugged où ça connaissance, sa compréhension du monde du transport et cette entreprise ferroviaire, donc une sorte de SNCF privée américaine, elle la connaît très très bien. Ce qui est beaucoup plus impressionnant pour moi, c'est que ça décortique les mécanismes de les rapports de pouvoir et les mécanismes de prise de décision à l'intérieur de l'entreprise. Comment, il y a une phrase de Jaurès qui dit « l'entrepreneur est celui qui ose ce que les dirigés n'osent pas risquer ». Et c'est comment, justement, il y a des gens qui, c'est aussi un des thèmes de l'homme qui s'envola, comment il y a des gens qui font, il y a des gens qui se cherchent de raisons de ne pas faire, et il y a des gens qui ne voient que des raisons de faire. Et elle montre très très bien l'opposition entre ces deux mondes. Il y a une scène, par exemple, où le train dans lequel Ed Agnitagart, la dirigeante de la compagnie, s'arrête en race campagne. Le mécano a arrêté le train parce que je ne sais plus quel problème. Et elle descend du train et elle demande au mécano qui ne la connaît pas, qui croit qu'elle est une passagère comme les autres, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, on est bloqué. Ah, il faut qu'on attende. Ah, ben, il n'y a rien à faire. Et elle dit, expliquez-moi le truc. Ah, ben, voilà, c'est ça le problème et tout. Elle dit, bon, très bien. OK, je comprends. D'accord. C'est pas optimal. Donc, je vous dis, on repart. Ah, mais qui vous êtes? Je suis le dirigeant de la société. Oh là là, oh là là, mais alors vraiment, il va falloir me l'écrire. Enfin, et c'est ce moment où on voit ce qui la sépare des autres, pourquoi elle a réussi, en tout cas, à créer quelque chose d'énorme, comme Hank Reardon, comme John Galt, alors que d'autres gens se cherchent vraiment d'abord et avant tout des raisons de ne pas perdre leur job, des raisons de ne pas prendre de risques, des raisons de... Oui, c'est ça, de ne pas faire d'erreur. Celle le décrit très, très, très bien. Je ne l'ai jamais vu aussi bien décrit dans un livre.
Et qu'est-ce qu'il y a de daté dans les romans d'Ayn Rand? Je ne parle pas des situations ou des vêtements, enfin, ça c'est vraiment très secondaire. Mais qu'est-ce qu'il y a de daté, et notamment dans la manière de faire littérature, enfin, je ne sais pas, dans les dialogues peut-être, dans une certaine croyance dans la description
Honnêtement, je trouve assez peu. Enfin, c'est-à-dire, je ne crois pas qu'on pourrait. Je ne crois pas qu'on pourrait refaire ce qu'elle a fait parce que je crois qu'il n'y a pas un autre Ayn Rand. Donc, personne aujourd'hui dirait tiens, ça serait une bonne idée de faire un discours radiophonique de 150 pages pour faire de la théorie philosophique. Donc, On peut dire que c'est daté, mais je pense que c'était déjà extrêmement incongru à l'époque et ça serait encore plus incongru probablement aujourd'hui. Pour le reste, pour la mécanique du roman, je trouve que c'est assez peu daté parce qu'elle a le don d'abord de ne pas situer les choses dans le temps, ce qui n'a pas empêché le livre justement de refaire une très belle carrière en librairie en 2007. Puis, au moment de la crise économique, les gens se sont reprécipités dessus. Enfin, les très grands textes comme ça sont assez peu datés. Enfin, 1984, que j'ai relu récemment, n'est pas très daté. Vraiment, ça tient la route. Après, oui, sa langue, probablement, les dialogues font parfois un peu trop écrit, un petit peu trop suranné. Bon, oui, sans doute que c'était le style de l'époque. Un recours aux descriptions, sans doute aussi. Et en même temps, on a l'impression que c'est très long et tout ça. Et moi, j'ai fait le test plusieurs fois. Elle dit jamais deux fois la même chose. Ou plus exactement, elle ne le dit jamais deux fois de la même façon. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement convaincant. Elle a quelques idées. Enfin, quelques idées, beaucoup d'idées, hein. Mais on va dire, quand elle choisit quand elle dit, un des buts d'Atlas Shrugged, c'est de faire passer cette idée, elle va vous la marteler 40 fois dans le livre, mais de 40 façons différentes. C'est en cela que c'est très, très convaincant.
Et dernière question, Antoine Bello. Il y a dans Ayn Rand des choses qui sont choquantes dans les romans de Ayn Rand, certaines scènes, certaines situations. On a parlé déjà dans nos modules du rapport un peu compliqué des personnages féminins au sexe. Il y a des personnages qui sont assez étonnants, comme ce pirate, par exemple, dans Atlas Shrugged, qui arraisonne les vaisseaux des États pour redistribuer l'argent aux gens aux plus riches qui ont été spoliés par l'impôt. Voilà, c'est quand même les anti-Robin des Bois. Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qui vous choque, s'il y a des choses qui vous choquent quand même dans les excès ou les renversements utopiques qu'il y a dans Ayn Rand?
Choquer n'est pas le mot parce que je sais, en tant que romancier, enfin, on doit choquer, on doit provoquer. Et quand vous prenez une idée aussi novatrice que l'idée de d'Ayn Rand, qui est d'expliquer justement qu'il y a un renversement de la pensée et que, contrairement à ce qu'on croit, les puissants sont asservis par les pauvres, vous êtes obligé. Non, mais vous êtes obligé de le mettre en scène de façon assez spectaculaire avec un anti-Robin des Bois. Ça va faire parler, ça va faire discuter, et c'est à ça que ça sert. Donc, c'est clairement ça. C'est pas ma tasse de thé, mais je comprends pourquoi elle l'a fait. Ce qui m'a toujours plus gêné, c'est les omissions de Ayn Rand plus que les choses qu'elle met dans son livre. Il n'y a pas d'enfants dans le monde d'Ayn Rand. Ça, c'est quelque chose qui me gêne et ça m'empêcherait, je pense, d'aller vers son système de manière plus enthousiaste. C'est dans ces deux grands livres, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'handicapés, il n'y a pas de gens qui ont besoin d'être aidés. C'est-à-dire que on voit que des gens qui se font aider, sont assistés par le système, et c'est facile de se retourner vers eux en disant « mais tu pourrais t'en sortir aussi, regarde-moi, je suis pas plus intelligent que toi, mais j'ai travaillé plus dur ». Donc c'est assez facile de donner la leçon dans ces cas-là. C'est comme si on disait « oui, il faudrait arrêter le RSA, ou en tout cas le supprimer pour ceux qui le touchent et qui devraient pas le toucher ». Oui, on est d'accord, ça. Il faudrait supprimer la fraude, il faudrait supprimer les gens pour qui ça ne sert à rien. Mais les gens pour qui ça sert vraiment à quelque chose, et il y en a, des gens qui naissent avec un handicap, des gens qui sont juste pas formés ou qui ont eu des circonstances particulières dans leur vie, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et ça, elle n'en parle pas du tout.
Merci beaucoup. Merci Antoine Bello. Je rappelle le titre de votre livre, votre roman, L'homme qui s'envola, chez Gallimard. C'est paru en mai dernier. Demain, pour le cinquième et dernier volet de cette série Avoir raison avec Ayn Rand, ce sera une discussion avec deux jeunes lecteurs de Ayn Rand. Merci.
Merci.
C'était Avoir raison avec Ayn Rand, une série de Xavier Delaporte, prise de son Claire Levasseur et Benjamin Vignal, réalisation Guillaume Baldi.